Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Adrien Bourg, bonjour.
Bonjour Nathalie Cardon.
Alors, le christianisme au défi des nouvelles spiritualités, hein, c'est le titre. Et je pense que les auditeurs qui vous suivent depuis le début de la semaine ont bien noté ce livre paru chez Arthège. Quels sont les enjeux, Adrien Bourg, spirituels, concernant toutes ces nouvelles spiritualités?
Alors, il est vrai que quand on va les aborder sous l'angle un peu superficiel, voilà, on rentre au rayon nouvelle spiritualité de sa librairie ou au rayon développement personnel.
Il y a tout un supermarché aussi.
Il y a tout un aspect très horizontal. On va vous proposer le bien-être ici maintenant. On va vous proposer telle ou telle guérison, etc. Mais dès qu'on commence à s'y plonger un petit peu, on se rend compte aussi que dans ces courants, il y a bien souvent une proposition nature vraiment spécifiquement spirituelle. On vous propose un horizon. On vous propose ce qui est supposé être le but ultime de votre vie, quelque chose vers quoi vous devez tendre, à défaut de l'atteindre très facilement, etc. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de courants différents, beaucoup d'auteurs différents, on ne peut pas généraliser, mais quand même il y a un trait commun qui revient très souvent dans ces courants, c'est la question justement de la réalisation ou de l'illumination spirituelle. C'est quand même l'horizon ultime du yoga, normalement, quand on le prend un peu au sérieux. C'est quand même l'horizon ultime qui est recherché à travers le terme lui-même le dit, méditation pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience ? La possibilité d'accéder à un état de conscience parfait, absolu, de la totalité du réel, etc. Donc là, il y a quelque chose à commenter un petit peu, parce que justement, dans la manière dont on s'est présenté par ces courants, on va laisser entendre, on va vous faire croire déjà que finalement, c'est un peu ce que dit le christianisme aussi. Il y a ce phénomène de syncrétisme et d'agrégation de toutes les courants, de toutes les tendances spirituelles, comme si c'était un seul et même message qui était revêtu de vêtements différents. Il y a une image qui est très utilisée par certains auteurs dans ces milieux, c'est, voilà, il y a une même montagne, un même sommet, il y a des chemins différents pour y accéder, le christianisme est un chemin parmi d'autres, etc. Cela est faux. Cela est faux pour une raison très simple, c'est que la proposition, l'horizon que propose le christianisme, n'est pas du tout le même que ce que va proposer l'hindouisme, n'est pas du tout le même que ce que va proposer le bouddhisme, n'est pas le même non plus que ce qu'on va trouver dans telle ou telle religion traditionnelle, chamanisme, etc. Ça n'a rien à voir. Dans la révélation chrétienne, il y a cette idée très, très claire, très précise, que Dieu nous a créés volontairement. Il a voulu des êtres innombrables qui peuplent un monde qu'il a aussi créé, et puis des êtres invisibles, les anges qui n'ont pas de corps, mais qui font partie de cette même création. Et toute cette création est tendue vers un même horizon qui est l'union à Dieu, et tout particulièrement les anges et les hommes sont appelés à entrer pleinement dans la communion avec un Dieu qui est un Dieu personnel, qui veut les unir à lui. Il est lui-même communion de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et il veut unir les êtres qu'il a créés à sa grande communion, communion d'amour, pour nous faire accéder à la divinisation dans le sens chrétien du terme. Dans l'horizon spirituel tel qu'il est pensé dans ces nouvelles spiritualités, c'est quelque chose qui va dériver. Alors il y a des courants très profonds, il y a le courant du néoplatonisme, de la gnose, et puis il y a les courants plus orientaux, l'hindouisme, le bouddhisme, qui se ressemblent un petit peu. On va vous présenter l'horizon spirituel comme la fin d'une illusion. Vous avez l'illusion d'exister en tant que personne et vous prenez conscience que votre personne n'existe pas et que vous n'êtes qu'en réalité qu'une parcelle de ce grand tout. Et donc l'horizon est supposé être la résorption de votre personne dans un grand absolu. Alors ça paraît vous libérer de tous les problèmes, puisque tous les problèmes que vous pose le fait d'être une personne, toutes vos souffrances personnelles, tous vos soucis relationnels personnels, etc., sont supposés se dissoudre dans ce grand tout. Mais dans l'opération, si c'était possible, parce qu'au fond c'est impossible, si c'était possible, en fait, vous dissoudriez, vous disparaîtriez en tant que personne. Ça n'a rien à voir avec cet horizon que vous propose la foi chrétienne, qui est Dieu vous aime et vous veut en tant que personne, avec votre jeu, avec votre personnalité, avec tout votre être, toute votre histoire, il vous veut auprès de lui dans sa communion. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc moi, je m'élève contre la confusion, justement, de ces propositions et contre l'idée que je trouve absolument inadmissible que la proposition des nouvelles spiritualités serait supérieure à celle de la foi chrétienne. Voilà.
Et c'est présenté ainsi, comme
tout
supérieur.
Tout à fait, oui, oui.
C'est aussi très, un peu l'analyse et les critiques que
tout
vous
à fait.
Faites.
Et ça, c'est quelque chose qui non seulement est en entrefilé
dans tout le...
Et puis
une toute grande puissance.
Oui, parce qu'il y a, cette idée, cette idée que le divin est en soi et qu'on peut en prendre conscience sans médiation, sans passer par des sacrements, sans passer par un clergé,
alors,
etc.
Permettez-moi, alors comment pouvoir entrer, non pas dans l'opposition, mais dans un dialogue constructif?
Alors je pense que poser la question suffisamment régulièrement de « mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Quel est votre horizon ?» Comment vous pensez votre relation avec Dieu, avec cet absolu dont vous parlez? Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est mieux que ce que disent les chrétiens? Alors, il y a des théorisations très pointues de cette double proposition. Chez Frédéric Lenoir, par exemple, c'est très, très, très bien déployé, très pensé, avec toute une architecture derrière. Et il vous dit que, justement, l'absolu impersonnel est supérieur au Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit des chrétiens. Mais là, il y a une réponse très ferme et très nette que les chrétiens ont apportée, qui est de dire non, ce n'est pas vrai. Parce que précisément, en tant que personne, la meilleure chose qu'on peut attendre, qu'on peut espérer, c'est la vertu de l'espérance, justement, c'est d'être sauvé personnellement, de rentrer dans une relation d'union personnelle avec Dieu. Ce que des grands mystiques ont vécu dès à présent, ce que l'expérience mystique permet de vivre, mais pas la réalisation spirituelle en mode oriental où la personnalité se dissout et se désagrège dans ce grand absolu, dans ce grand tout.
Alors, à quel moment, au fond, on peut être un peu dans une séparation, une non-compréhension? Je pense au christianisme, je pense à ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu Trinité, cette question aussi qui habite le cœur de l'homme croyant de cette vie éternelle, la question du salut. Il y a vie éternelle dans ce christianisme. Il n'y a pas de vie éternelle dans de nombreuses nouvelles spiritualités.
Alors justement, je pense que c'est une confusion qu'il faut absolument lever, c'est que déjà, le fait d'affirmer que c'est la même chose brouille complètement les cartes, parce qu'on s'en mêle les pinceaux entre ce que disent les chrétiens et ce que disent les autres. Donc il faut déjà rétablir la distinction entre ce que dit, ce qu'enseigne l'Église et ce que dit le christianisme, et ce que va dire une nouvelle spiritualité marquée justement par la gnose, le néoplatonisme ou les religions orientales. Là, il y a la distinction à poser, ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est important de le dire, parce que justement, il y a tout ce discours ambiant de... Au fond, toutes les religions disaient la même chose, dans leur cœur, dans leur noyau mystique, etc. Ça, c'est un discours qui vient de l'ésotérisme. C'est important de le voir, ça. C'est un discours qui est passé de l'ésotérisme à la pensée commune. J'en parle dans le livre, c'est la philosophia perennis. Il y a toute une histoire à ce courant, et qui est devenue une évidence pour beaucoup de gens, alors que c'est faux. C'est un mensonge. Les religions ne disent pas toutes la même chose. Ce sont il faut respecter cette différence et cette altérité des propositions différentes. Et puis après, une fois que cette distinction est posée, bah, chacun présente paisiblement, calmement, ce en quoi il croit et ce en quoi il dit. Ça redevient du dialogue interreligieux sain, finalement, où chacun dit ce qu'il croit, quoi, dit ce qu'il pense.
Vous y croyez, ce dialogue interreligieux?
Alors, j'y crois quand il est mené sur des bases saines, c'est-à-dire quand on respecte l'altérité et le fait que, justement, on ne croit pas tous la même chose et qu'on ne peut pas immédiatement arriver à une solution dans un grand, justement, dans un grand océan où tout serait supposé être vrai, identique, etc. Ce n'est pas vrai, il y a des réalités différentes. Il faut qu'on arrive à se poser autour d'une table et en parler sérieusement. C'est possible dès lors que... Dès lors qu'on assume que ce n'est pas la même chose, que justement on peut être capable d'en parler paisiblement.
Alors vous avez pu rencontrer, parler autour d'une table tranquillement avec l'un des auteurs que vous citez, que vous avez cité au cours de nos échanges cette semaine, et je pense particulièrement à Frédéric Lenoir.
Alors Frédéric Lenoir, oui, c'était l'objet de ma thèse de doctorat, et je le connais assez peu, j'ai rencontré une fois physiquement, et on s'est parlé une fois par visioconférence. Bon, c'est quelqu'un dont je n'étais pas lecteur avant de commencer ma thèse, et je l'ai pris simplement comme une porte d'entrée pour parler de ces sujets. C'est pas quelqu'un qui, pour moi, avait une importance ni dans mon parcours, ni dans mes préoccupations. C'est une personne qui... fait partie de ces gens qui ont joué un rôle charnière dans cette histoire en termes de popularisation. C'est un peu compliqué dans son cas parce que c'est quelqu'un qui était à la croisée des chemins. Il vient du catholicisme, il a un doctorat en sciences sociales, en sociologie, et par ailleurs, il est promoteur d'une forme de pensée New Age, ésotérique, etc. Donc il est un peu à l'interface des trois mondes, c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier aussi. Mais bon, c'est clairement un promoteur de ces spiritualités. Et j'ai pas eu l'occasion de débattre véritablement avec lui de ces sujets. Ça viendra peut-être.
C'est... Vous préparez une thèse sur le sujet de Frédéric et tout son travail, Frédéric Lenoir.
Elle est soutenue, cette thèse. C'était ma thèse d'histoire.
Ah, oui. Très
et
bien.
Elle sera publiée, si tout va bien, dans l'année à venir ou l'année suivante. Enfin, ça devrait venir assez rapidement.
Donc, on va vous suivre, Adrien Bourg. Et je vous propose de vous retrouver dès demain pour le dernier épisode de la série avec cet ouvrage, Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités, un sujet que vous maîtrisez. À demain, même lieu, même heure, et merci.
Merci beaucoup.